Alors, on est dans notre étude suivie.
Notre...
Voilà, tu vois, du Larsen, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose ou pas. Ah, c'est bien là, ok. Donc, 1 Corinthiens, on est sur le principe de ce qui est appelé expository preaching, donc prédication expositive ou textuelle en français, c'est-à-dire qu'on prend un texte et on le déroule verset par verset et on suit tout un livre. Voilà, on a pensé avec Andou que c'était une très bonne... méthodologie pour notre église. Suite au départ de notre pasteur Alain, après 28 ans, on s'est retrouvé avec une église qui était fondée. Maintenant, il faut édifier, il faut continuer d'édifier dessus. Et Paul dit à ses Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, maintenant bâtissez dessus, mais attention, soyez vigilants de la manière dont vous allez bâtir dessus. Donc on l'a pris comme un appel pour nous deux qui sommes chargés d'enseigner. Mais aussi dans cette lettre, il y a beaucoup de problèmes dans cette église. Alors, c'est pas qu'il y en ait chez nous particulièrement, mais comme toute assemblée, ben, on a nos luttes, nos combats, nos questions, etc. Donc, on a trouvé que c'était édifiant avec l'ordre du Seigneur, avec sa conduite. On s'était dit qu'on continuerait une étude prolongée dans 1 Corinthiens. Et on est à présent au chapitre 5, et je vais lire avec vous ce matin les versets 1 à 8. Alors, c'est une église qui avait des problèmes. On a dit qu'il y avait de vrais problèmes très sérieux, hein. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et je vais m'arrêter sur cette note boulangère ce matin. On va voir trois points. On va avoir trois points sur ce passage. C'est tout d'abord les conséquences du péché dans l'Église. Quelles sont les conséquences du péché dans une assemblée? Ensuite, on abordera le thème de la discipline, que Paul met bien en avant ici, de façon un peu dure, on va y venir. Et puis troisièmement, ce sera l'importance de préserver l'Église du mal. C'est surtout ça le but. Alors, on va relire versets 1 et 2, les conséquences du péché dans l'Église. Et auparavant, je vais prier. Seigneur, nous ouvrons ta parole. Nous venons y trouver l'enseignement dont nous avons besoin. Que tu sois notre maître et nous tes disciples. Parle-nous, nous voulons t'écouter, Seigneur. Que ta parole nous éclaire en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Je répète les propos de Paul. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Alors ici, on comprend vite que c'est un problème d'ordre sexuel, mais qui est grave, qui est quand même assez grave, hein. C'est un homme qui a pris la femme de son père, sous-entendu sa belle-mère, enfin sa mère. Hein. C'est un homme qui a priori avait plusieurs femmes, il a pris l'une des femmes de son père. Alors c'est une pratique qui était interdite dans l'Ancien Testament. On va regarder Deutéronome verset 23, chapitre 23 verset 1. Alors c'est le verset d'avant selon les coupures des Bibles, c'est dans 22-30. Voilà ce que dit Dieu au peuple d'Israël, une ordonnance. Il dit « Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. » Voilà. C'est une pratique interdite dans la loi mosaïque. Mais c'était aussi une attitude qui était choquante pour la société de l'époque, parce que là, il parle à des Grecs, hein, il ne parle pas à des Juifs. Mais on sait par Cicéron, le Romain Cicéron, que notamment l'inceste était interdit dans la société romaine. C'était proscrit, il y avait interdiction d'avoir ce type de pratique aussi. Raison certainement pourquoi Paul dit « Il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, ni immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants, chez les païens. Même eux ne font pas ça et vous, vous le faites. » Alors ce péché, je l'ai dit, était grave, mais ce péché était double. Il y a un double péché, là. Il y a l'inceste d'un côté, il y a l'adultère de l'autre. Il a pris la femme de quelqu'un. Double péché, double condamnation. Donc, logiquement, toute l'assemblée aurait dû être triste et affligée de tout ça, ça aurait dû faire des remue-ménages. Mais non. Au contraire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée de Corinthe? Comment ils sont, les gens? Ils sont attristés? Non, ils sont dans l'orgueil. Ils sont très contents, visiblement, que dans leur assemblée, on fasse ce genre de choses. Le seul sentiment qu'ils aient, c'est de l'orgueil. Pourtant, dans l'Église, mes amis, le péché des uns devrait affecter tout le monde. On devrait tous être tristes. Vous savez, quand un membre souffre, c'est tout le monde qui souffre. Et quand un membre chute, c'est toute l'Église qui est affectée. Le péché au sein d'une assemblée, il y a deux conséquences redoutables. Deux. Déjà à l'intérieur de l'assemblée, ça crée des troubles, ça crée des problèmes, ça crée des divisions, ça crée des querelles. L'ennemi est entré dans l'assemblée, ça ne peut provoquer que des dégâts. Ça, c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est le témoignage que va rendre l'Église. Comment les Corinthiens pouvaient aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ après ça? Si les non-croyants savaient qu'à l'intérieur, il y avait des choses qui se faisaient que même eux étaient révoltés. Quel témoignage ils rendaient? Vous imaginez si le dimanche matin, avant que le culte commence, on était devant l'assemblée, on fumait des cigarettes, on buvait une bière, peut-être pire encore, et puis après on irait prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? C'est vrai qu'ils auraient envie de rentrer? Ils diraient, oh là là, hein, si c'est comme ça à l'intérieur, non, je préfère me tenir à l'écart. Donc un mauvais témoignage et des troubles à l'intérieur et des problèmes aussi pour l'extérieur. Et si on est tolérant envers le péché, c'est ce qui arrive. Vous savez cette image du ver dans la pomme qu'on aime bien reprendre hein, dans la langue française. Vous avez une pomme et puis vous avez un ver qui rentre dans la pomme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas, hein. Si on n'est pas attentif, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui fait le ver? Petit à petit, il ronge tout l'intérieur, il mange tout. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard, le fruit est pourri, il est détruit. C'est la raison pour laquelle Paul va leur dire « Attention, vous avez un problème parmi vous, vous avez du péché, vous n'avez pas traité le cas de péché, il va falloir agir, et de façon plutôt ferme, hein, c'est ce qu'on va voir à présent. » Versets 3 et 5, c'est les versets suivants. Donc là, Paul, il dit « Voilà, moi je ne suis pas là, mais je suis avec vous par l'esprit. Hein. J'ai déjà jugé cet homme. Cet homme, pour moi, il est déjà jugé. Hein. » Verset suivant. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Paul lui dit, moi j'ai déjà jugé cet homme. Alors, dans un premier temps, il a dit, vous avez été négligent. Attention, il y avait du péché au milieu de vous, vous l'avez toléré, vous avez été négligent. Donc maintenant, ce problème, il est chez vous, il va falloir le traiter. Est-ce que vous aimez les fraises? Qui aime les fraises? Tout le monde aime les fraises? Non, vous aimez les fraises? On peut donner une autre image et donner l'image de la pomme, et c'est l'image de la fraise. Vous avez une belle barquette de fraises que vous venez d'aller au marché, elle est très belle. Ah! Et puis quand on arrive en chez vous, vous vous rendez compte de quoi? Mince! Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y en a une qui est pourrie. Et qu'est-ce qui se passe si on laisse la fraise pourrie? Ça va contaminer toute la barquette de fraises, inévitablement. Remarquez que l'inverse n'est pas vrai, hein. C'est pas quand on met une fraise pourrie au milieu de belles fraises que la fraise pourrie va devenir belle. C'est automatiquement elle qui va contaminer les autres. On voit la propagation du péché. Donc, qu'est-ce que vous faites quand il y a la fraise pourrie? Vous prenez la fraise, vous la retirez de la barquette et vous la mettez à la poubelle. Ben, Paul, il dit la même chose. Il y a du péché au milieu de vous, vous allez prendre le péché là, vous allez le retirer et vous allez le jeter. Alors il dit, vous livrez cet homme au diable. C'est dur ça, non? Ça nous choque un peu? Ça vous choque un peu? Ça me choque un peu. Ok. Il y a deux explications. Enfin, du moins, on peut l'interpréter de deux façons. Ce serait, d'une part, ce serait soit le châtiment, soit l'excommunication. Si
Si c'est le châtiment, ça pourrait nous rappeler ce livre de Job que tout à l'heure on a relu un verset avec un passage avec Lucas. C'est dans Job chapitre 1, versets 6 à 12. Il y a un dialogue entre Job, entre Dieu et Satan. Vous connaissez cette histoire peut-être, si vous êtes familier avec la Bible. On a un épisode un peu étonnant. On a Dieu qui tient conseil et puis on a Satan qui arrive. C'est ce qu'on voit ici. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, je suppose les anges, hein, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan, il arrive. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détendant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? N'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, tout le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Passage étonnant, non ? Satan, il dit quoi ? L'Éternel lui dit, d'où viens-tu ? Satan dit, je viens de parcourir la terre, de m'y promener, je suis chez moi. C'est mon domaine. Je suis chez moi, je suis le prince de ce monde. Donc, je suis sur mon territoire, moi je m'y promène, hein. Je suis comme à la maison, je suis comme dans mon jardin. Ce qui est intéressant aussi, si de constater, si on s'y arrête un instant, c'est de regarder comment Satan procède avec Dieu. Il procède de la même façon qu'il a fait avec qui ? Avec Adam et Ève, surtout avec Ève au départ. Qu'est-ce qu'il fait, Satan, là ? Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job ? Et Satan dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose une question. Il sème le doute. Il dit, tu n'as pas protégé Job ? Pourquoi il est comme ça, Job ? Il est béni, non ? Il pose des questions. Il sème le doute. Et après, il lance une affirmation, comme il avait fait avec Ève, en disant, vous ne mourrez pas. Dieu sait très bien que le jour où vous allez en manger, etc. Et il a dit, mais fais-le, retire-lui tout ce qu'il a et tu vas voir, je suis sûr. Ouais, il provoque. Il pose la question, il sème le doute. Et après, il lance une affirmation pour provoquer. Voilà la stratégie, la tactique du diable. Il fait la même chose avec Dieu. Il a le culot de faire la même chose. Alors, c'est une technique redoutable, ça marche très bien. Beaucoup de dégâts sont faits dans la vie des hommes aujourd'hui par ce genre de stratégie, le diable qui pose une question, qui sème le doute, notamment par rapport à la parole de Dieu, et qui ensuite va infuser des mauvaises doctrines. Mais évidemment, ça ne marche pas avec notre Dieu, parce que notre Dieu est souverain, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il lui dit « vas-y », mais ce n'est pas parce que Satan l'a influencé, hein, il lui dit « vas-y et tu verras ». Et on verra que Job, malgré que sa vie va être très très éprouvée par Satan, qui va lui prendre ses biens, sa santé, presque sa vie, mais il n'ira pas au bout parce que Dieu lui avait interdit, car Dieu lui fixe des limites. Finalement, on va se rendre compte de l'intégrité de Job et de sa sagesse. Alors ça, c'est la première interprétation. On pourrait dire le châtiment. On remet cet homme entre les mains du diable, un petit peu comme dans cet épisode-là, et on pourrait imaginer qu'on le remet entre les mains de Satan, comme Job s'est retrouvé dans les griffes de l'ennemi. La deuxième interprétation possible, c'est celle de l'excommunication. Ça veut dire que la personne soit retirée de l'assemblée, elle est excommuniée. Les Juifs avaient deux formes d'excommunication. Alors, vous pardonnerez mon accent hébreu, le nidui, N-I-D-U-Y, je pense que je traduis assez mal, je prononce assez mal, c'était une exclusion temporaire, 30, 60, 90 jours. On retrouve toujours le principe trinitaire, hein, 3, 6, 9, toujours. Exclusion temporaire, 30, 60 ou 90 jours. Et puis, il y avait l'exclusion définitive qui s'appelle le Cherem. Et là, c'était une exclusion définitive de l'Assemblée. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, nous donne un autre type de discipline pour l'Église. Il dit, voilà, ce n'est pas le même principe. Regardez dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Matthieu 18, versets 15 à 17. Voilà ce que nous dit Jésus pour traiter la discipline dans l'Église. Si ton frère a péché, va
et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. C'est un principe qui est rappelé dans Tite, Tite chapitre 3, versets 10 et 11. Il y a une recommandation aussi pour les églises. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un tel homme de cette espèce, un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche, se condamnant lui-même. Alors dans ces deux passages, Matthieu ou Tite, on voit in fine c'est quoi ? In fine c'est au final, la décision c'est quoi ? La personne doit être exclue de l'assemblée. Voilà, éloigne de toi cet homme, etc. C'est vraisemblablement ce qu'a voulu dire Paul quand il dit voilà, livre un tel homme à Satan. Le commentateur anglais Matthew Henry, 18e siècle, disait l'humanité est divisée en deux. Il y a le monde qui est sous l'emprise du diable et il y a l'Église qui est conduite par Christ. Donc si vous êtes dans l'Église, vous êtes sous la domination de Christ. Si vous n'êtes pas dans l'Église, vous êtes dans le monde, vous êtes sous la domination du diable. Voilà comment il divisait cette l'humanité, c'est finalement assez vrai. D'ailleurs, c'est confirmé dans 1 Jean 5, 19. L'apôtre Jean ne dit rien d'autre lorsqu'il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, nous chrétiens, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Vous avez d'un côté le monde sous la domination du diable, et on voit que le diable s'y promène comme dans un jardin. Et puis vous avez l'Église où Christ règne. Alors, excommunier quelqu'un, c'est quoi ? Quand on le prend de l'Église, comme la cagette de fraises, on prend la fraise et on la met dehors. Ça veut dire que si on renvoie quelqu'un dans l'Église, vous le renvoyez dans le monde. Donc, il change de maître, il n'est plus sous la domination du Seigneur, sous l'autorité dite de Christ. Il retombe sous l'autorité du diable, en quelque sorte. C'est redoutable, évidemment. C'est la seconde interprétation. Personnellement, c'est celle que je privilégie, parce que je pense que ça reprend plus l'idée, l'esprit de ce que dit Christ quand il dit... Qu'une telle, voilà, vous le considérez comme quelqu'un qui est étranger à vous, un publicain, un collecteur d'impôts. Et Tite dit, voilà, vous l'enlevez du milieu de vous. Il ne dit pas, vous le jetez entre les mains de diable pour qu'il soit détruit et pour qu'il meure. Non, Jésus ne dit pas ça et Tite ne confirme pas ça non plus. Donc je pense que plutôt dans l'esprit de la lettre qu'on a lue ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que la personne, si elle ne se repent pas, elle soit excommuniée. Ça, c'est pour les personnes qui ne se repentent pas. Après, pour ceux qui se repentent, il y a une autre façon de procéder, bien sûr, et qui, là, c'est la grâce de Dieu. Hein. Ça passe par l'amour et le pardon. Et c'est ce que va dire Paul aux Corinthiens, toujours aux Corinthiens, mais dans une autre épître, la deuxième, celle-ci, la dernière, au chapitre 2, versets 5 à 11. Donc là, on a vu qu'il était assez dur avec cet homme. A priori, il y avait un vrai problème. Mais il dit, voilà, il y a d'autres cas où si la personne se repent, il y a une autre attitude à avoir. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, bon, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Il suffit. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc là, Paul dit, si quelqu'un se repent, là il faut faire preuve de pardon, d'encouragement, de grâce, il faut lui pardonner. Et il dit aussi, je vous mets à l'épreuve, c'est pour voir si vous n'êtes pas trop dur finalement. Si vous ne vous dites pas, il a péché contre l'Église, contre nous, il nous a fait du mal, on va le détruire. Non, il dit aussi, je vais vous mettre à l'épreuve pour voir si vous aussi, vous êtes capable de témoigner de la compassion, de l'amour et du pardon comme Dieu lui-même. Donc ici, le mot d'ordre, c'est quoi ? C'est être ferme avec ceux qui s'endurcissent et être bienveillant avec ceux qui s'attendrissent. Ceux qui s'endurcissent, fermeté. Ceux qui se laissent attendrir, bienveillance avec eux. Le but, dans tous les cas, c'est de préserver l'Église du mal. Et c'est là où Paul en vient à présent. Versets 6 à 9. On va y relire.
cette partie avec le levain. Versets 6 à 9, 1 Corinthiens 5. L'image utilisée ici, c'est celle du levain et de la pâte. Dans la Bible, il y a plusieurs fois cette image du levain. Vous savez, ça symbolise le péché et le mal, en fait. Jésus reprend cette image, c'était aussi dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, le levain avec le pain ? En fait, j'ai jamais fait de boulangerie, mais c'est très simple. Le pain, c'est de la farine, de l'eau, du sel. Vous pétrissez la pâte, et vous mettez du levain et vous laissez reposer, ça va gonfler, ça va vous donner ce pain après cuisson qui va être aéré, moelleux, etc. Si vous ne mettez pas le levain, ça va vous donner une sorte de pain azyme, comme on partage la scène. C'est tout sec, en fait. Si vous mettez de l'eau, de la farine et du sel, si vous le faites cuire, c'est tout sec. Donc le levain, lui, il fait gonfler toute la pâte. Si vous n'avez jamais fait de pain, vous faites des gâteaux, vous mettez de la levure chimique, là, et puis pouf, vous avez un gâteau qui va être bien gonflé. Alors c'est quoi l'action du levain dans l'Église ? Ce péché, là, hein ? On a vu tout à l'heure, il suffit dans une pomme, il suffit juste d'un verre pour détruire la pomme. Pour la cagette de fraises, il suffit juste d'une fraise. Pour le pain, il suffit juste d'un peu de levain. Bah pour l'Église, les amis, il suffit juste d'un péché. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. À partir du moment où le péché entre dans l'Église et qu'on le tolère, il va mener à bien son entreprise de destruction avec des conséquences à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, Paul dit... Le levain, attention. Et justement, il y avait une fête en Israël pour expliquer cela, pour que le peuple comprenne bien. Dieu, dans sa pédagogie, utilisait des images assez simples. On peut comprendre nous aussi, avec cette fête des levains. Vous connaissez cette fête des levains dans l'Ancien Testament ? Regardez avec moi dans Exode 12, versets 14 à 15. Une fête qui était instaurée et qui devait être célébrée juste après la Pâque. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Donc, il laisse cette prescription au peuple d'Israël. Vous conserverez, je suis dans Exode 12, 14, et on va lire jusqu'au verset 15. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est la fête des pains sans levain. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'est le verset 15 qui nous intéresse tout particulièrement. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera retranchée d'Israël. Alors, Paul, je l'ai dit tout à l'heure, il parle à des Grecs, il ne parle pas à des Juifs. Donc, peut-être besoin d'explication, mais on peut supposer que Paul est resté un an et demi à Corinthe. On peut imaginer qu'il a déjà enseigné sur les fêtes en Israël et leur symbolique, comment elles ont été ensuite... confirmé par Jésus-Christ, parce qu'il ne donne pas l'explication dans le passage qu'on a lu ce matin, il reprend juste le thème du levain. Et en fait, je trouve qu'on peut voir un parallèle entre ce verset 15 et ce qu'il dit aux Corinthiens. Regardez ce qu'il disait aux Corinthiens, on relit à présent, donc chapitre 5, verset 6 à 9. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 9. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, donc là il rappelle, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors on revient sur notre verset 15 dans Exode 12. Regardez le parallèle qu'on peut voir entre ce que Paul dit aux Corinthiens et ce que Dieu disait à Moïse. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. 7 jours. Il y a combien de jours dans une semaine ? 7. 7 jours dans une semaine. 7 dans la Bible, c'est aussi le chiffre de la perfection. Donc c'est-à-dire qu'on doit vivre tous les jours de la semaine sans péché. Les 7 jours, ça reprend bien les 7 jours de la semaine, c'est-à-dire qu'on doit vivre toute la semaine sans péché. Pas seulement dimanche. Soyons pas des chrétiens du dimanche, où le dimanche, je mets la chemise blanche, l'auréole sur la tête, et puis je suis un chrétien. Par contre, jusqu'au samedi soir, j'ai bien amusé hier soir, j'ai bien fait la fête comme il faut, c'est bien détendu. Par contre, le dimanche matin, église, attention, tout ce qu'on a fait la semaine, on laisse de côté, là on vient. Alors surtout pas, le Seigneur dit, pendant 7 jours, pas de pain sans levain. C'est-à-dire, tous les jours de la semaine, sainteté, pureté. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. C'est-à-dire,
que le levain n'a pas de place dans nos maisons, dans nos foyers. Le péché n'a pas sa place. On doit absolument le nettoyer. Il n'y aura plus de levain dans la maison, il disait. En Israël, le premier jour de la fête, il fallait retirer tout le levain. Il fallait tout nettoyer. Il ne fallait plus qu'il y en ait une trace du tout. Et regardez bien, c'est pas... Tu nettoieras au fur et à mesure. Il faut absolument qu'au septième jour, il n'y ait plus rien. Hein. Non, c'est bien. Dès le premier jour, un bon coup de balai et tu supprimes tout ça. C'est-à-dire que nous, le plus tôt possible, dès à présent, dans notre vie, dès la conversion, mais aussi à chaque instant de notre vie, balayette, pas de levain dans nos vies, etc. Ça commence à la conversion, ça continue après. Conclusion du verset 15. Toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera quoi ? Retranchée d'Israël ? Qu'est-ce que disait Paul tout à l'heure ? Cette personne, vous l'excommuniez, vous la sortez de vous. Et la personne qui prenait du levain pendant cette période-là, qu'est-ce que c'était ? Retranchement de la communauté, c'est la même chose, hein ? C'est la même chose. Hein. Principe d'excommunication là encore. Hein. Paul ne dit rien d'autre finalement. Donc on voit dans cet exemple de l'Ancien Testament, eh bien c'est souvent le cas, la conduite sous la loi de l'Ancien Testament, ça préfigure bien souvent la conduite sous la grâce dans le Nouveau Testament. Bien souvent, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration de la vie en Jésus-Christ, de ce qui arrivera sous la grâce. Alors Paul dit, ça c'était pour les Juifs. Eh bien, faisons la même chose. Célébrons la fête, mais sans levain. Donc, on va reprendre le verset, si tu veux bien, dans 1 Corinthiens 5, verset c'était 7. Voilà, on va retirer le mot levain, on va ajouter le mot péché à la place. D'accord ? On va juste faire un petit comme ça. On enlève toutes les fois qu'il y a le mot levain dans la phrase et on le remplace par le mot péché. Faites disparaître le vieux péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, donc une créature nouvelle, sous-entendu en Jésus-Christ, puisque vous êtes sans péché, car Dieu, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux péché, péché de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans péché, de la pureté, de la vérité. Voilà, on voit bien, on comprend bien que le levain, c'est bien ce qui était le péché mis en cause ici. Et pourquoi il doit faire cela ? Bah, Paul, il le dit, hein. Remonte le verset d'avant. On vient de lire. Pourquoi vous êtes sans levain ? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi ? C'est parce que Christ est mort pour nous. C'est lui qui symbolise l'agneau qui est tué à Pâques. La fête de levain était très liée à la fête de Pâques. Mais aussi, ça veut dire, vous devez faire ça parce que Christ est mort pour vous. Christ a été crucifié pour vous. Il est mort pour vos péchés. Christ est mort pour les péchés du monde entier. Les Juifs, les Grecs, les Irlandais, les Belges. Les Français aussi, tout le monde, il est mort pour tout le monde. Christ est mort pour vous, donc débarrassez-vous du péché si vous l'avez fait seigneur de votre vie. Voici la manière dont les Corinthiens devaient vivre. Ils ont dit que vous avez donné votre corps à Christ. Christ est mort pour vous, vivez sans péché. Mais c'est aussi valable pour nous, mes amis, bien sûr. Quand Paul prêche aussi, si Dieu le laisse dans la Bible, c'est aussi que c'est très utile pour nous. Il connaît notre condition de pécheur. De temps en temps, un peu de levain, ma foi, ne serait pas contre. Le Seigneur dit, pas de levain, nettoyage, tous les jours de la semaine, ça commence dès le premier jour, et après vous n'y goûtez plus. Pourquoi ? Parce que Christ est mort pour vous. Voilà, il réannonce le salut ici. Ceux qui appartiennent à Christ sont à présent purifiés de leur ancienne manière de vivre, ils sont une pâte nouvelle, une créature nouvelle. Alors si on est venu à Jésus-Christ, c'est le cas, on sait ce qu'on doit faire. Mais peut-être vous n'êtes pas encore venu à Jésus-Christ, c'est peut-être dans le cas où vous dites, bon ça c'est pour des chrétiens, très bien, mais moi je ne suis pas concerné peut-être, parce que Christ est mort pour vous aussi, Christ est mort aussi pour vous, et Christ veut que vous soyez réconciliés avec le Père. La Bible dit que si vous ne faites pas la paix avec Dieu, vous restez sous la condamnation de Dieu. On a vu tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans l'Église, vous êtes où ? Dans le monde. Et le chef de l'Église, c'est Christ. Si vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas à l'Église, si vous n'appartenez pas à Christ, vous êtes encore dans le monde. Dans les griffes du diable, en fait. Le salut se fait par Jésus-Christ lorsqu'on s'approprie sa punition sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Si on l'accepte pour nous, on se dit, c'est vrai, Seigneur, je reconnais que tu es mort pour mes péchés, à présent je vais faire la paix avec toi. Voilà comment Dieu accorde le salut, très simplement. Et ça se passe par la foi, ça ne se passe pas par les œuvres. Vous pouvez faire toutes les belles actions que vous voulez, ça ne vous sauvera pas. On a encore quelques minutes, ça va être rapide. Je vais revenir dans l'histoire de Jonas.
ce prophète Jonas, ce qu'on a étudié cette semaine avec ma famille. Donc on va regarder ce prophète Jonas, Jonas chapitre 3, vous allez voir. Jonas, c'est un caractère. Ouh là là, il est très très dur, il est rebelle, il est difficile, Jonas. Dieu s'est servi de lui quand même. Et il va prêcher à Ninive, contraint et forcé, mais il va le faire. On va avancer un tout petit peu, c'est le verset 3, verset 4. Allez, on va commencer au verset 3. Donc Jonas est envoyé par Dieu pour prêcher à Ninive. Les Ninivites, les amis, étaient parmi les peuples les plus cruels de l'Antiquité. Ils étaient d'une barbarie extrême. Ils sont restés célèbres pour ça aussi. Ce sont des gens difficiles. Imaginons aujourd'hui des talibans en Afghanistan. Dieu vous dit, va au milieu d'eux, prêche l'évangile. Alors on peut comprendre que Jonas, ils disent, moi je vais plutôt aller en Espagne. Ils sont plutôt sympathiques là-bas. Ils sont moins barbares. Je vais moins prendre de risques. On peut comprendre son attitude. On ferait peut-être la même. Enfin, du moins, je me parle. Mais là, il l'envoie. Et Jonas, du coup, par les épreuves, et va quand même aller à Ninive. Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, hein, 3 jours de marche. On estime qu'il y avait plus de 100 000 habitants. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit à la fin. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Se revêtir de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La prédication de Jonas, elle est simple. Il n'enseigne pas ici, il prêche. Simplement, il prêche un jugement en disant, il ne dit pas du tout, je viens de la part du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne les enseigne pas du tout, il leur prêche simplement, attention, il y a une condamnation pour vous, dans 40 jours vous êtes détruits. Ça leur suffit. Et d'ailleurs, je rejoins du coup, c'est impromptu, mais je rejoins les versets dans Job 28-28 qu'a cité Luca. La crainte du Seigneur, c'est quoi? La sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est quoi? L'intelligence. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Ninivites? Ils ne se sont pas dit, les amis, il nous reste 40 jours. Alors, on va faire des œuvres sociales. On va faire le bien autour de nous, on va faire du bien aux veuves, aux pauvres, on va faire une sorte de croix rouge, là, ou d'Emmaüs, on va faire du bien aux gens, peut-être que l'Éternel aura compassion de nous. Non, pas du tout. Ils ont peur de l'Éternel du jugement, et ils s'humilient. Crainte du Seigneur, et ils s'éloignent du mal. Ils ont été sauvés? Ce n'est pas par leurs œuvres, c'est par la foi en Dieu. Ils avaient eu peur, c'était vraiment de la crainte, il y avait une crainte de jugement. Ils ont eu peur, ils sont passés de persécuteurs à persécutés. Ils sont passés de pécheurs à sauvés. Voilà. C'est l'attitude des Ninivites, pourtant ils étaient durs les Ninivites. Hein. C'était redoutable. Hein. Il a fallu juste d'une parole forte, ça leur a suffi pour être sauvés. Donc, nous aussi, j'espère qu'on n'est pas plus rebelles que les Ninivites. J'espère que chacun d'entre vous a fait la paix avec le Seigneur. Je connais beaucoup de gens ce matin, donc j'en suis rassuré. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui écouteront la prédication après sur Internet. Donc on va lire un dernier verset pour conclure. Ce sera dans 1 Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Ça reprend le verset que j'ai pris tout à l'heure, hein, en parlant de Matthew Henry. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez le verset suivant. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, Christ est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous cherchez encore Dieu dans philosophie, ésotérisme, autres religions, bouddhisme, etc. Voilà, peut-être d'autres religions. Mais là, qu'est-ce qui est écrit? Qui est le Dieu véritable et qui conduit à la vie éternelle? Jésus-Christ, l'agneau de Pâques immolé pour nous. Donc, si on veut venir à Dieu, il n'y a pas 36 chemins, les amis, il n'y en a qu'un seul. Ça doit se faire par Jésus-Christ et le salut passe par la foi et pas par les œuvres. Voilà, j'espère que ce verset vous aura en tout cas expliqué ces choses. En venant à Christ, on ne passe plus sous la domination du diable, on passe sous la domination de Dieu et c'est là où on a la vie éternelle et accès au Dieu véritable. Amen. Gloire à Dieu. Je vais conclure, les amis, parce que le temps a passé. On a vu ce matin 3 points, si vous vous rappelez. Je fais une petite synthèse, comme ça on aura le plan en tête. Le péché dans l'assemblée, tout d'abord, avec 2 conséquences redoutables. À l'intérieur, vous vous rappelez, ça crée quoi? Des divisions et des troubles. Et à l'extérieur, le risque, c'est quoi? Mauvais témoignage. Que les gens d'extérieur disent « Oh là là, mais à l'intérieur, même des choses qu'on ne fait pas, ils sont capables de les faire, comme un Corinthien. Imaginez ça. Donc, le péché est redoutable dans l'Église, il faut le traiter. C'est là que Paul dit, il y a ce discipline à faire. Vous avez deux types de discipline, avec ceux qui s'endurcissent, vous êtes ferme, c'est l'excommunication. Avec ceux qui sont tendres et qui sont capables de repentance, vous êtes bienveillant avec eux et il y a le pardon. On doit pardonner et encourager. Pourquoi ? Parce qu'il faut garder l'Église et soi-même du mal, c'était le troisième point. Ces points sous l'Ancien Testament nous expliquent bien souvent ce qu'on doit faire sous la grâce, sous le Nouveau Testament. On avait l'exemple du levain, hein, qu'il faut absolument quoi faire, rappelez-vous les amis. On l'enlève de la maison, dès le premier jour, dès le début, et puis surtout pendant les 7 jours suivants, plus de contact avec le levain. Parce que nous sommes des pâtes nouvelles, des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Alors si ce n'est pas votre cas, je vais prier à présent pour conclure ce message et puis je vais vous donner l'occasion de peut-être de vous réconcilier à Dieu si vous souhaitez le faire à présent. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Déjà, je vais te remercier pour la Bible, Seigneur, mais toute la Bible, l'ensemble de ta parole. Parce qu'on voit que Jonas, que Deutéronome, que d'autres parties de l'Ancien Testament nous éclairent sur le Nouveau Testament. Et d'autres parties du Nouveau Testament viennent compléter certains versets. Toute ta Bible est structurée. Nous voyons, Seigneur, qu'aucun homme n'aurait pu écrire cela, Seigneur. C'est une preuve pour nous de l'authenticité de ta parole. Et nous y voyons un amour et une sagesse qui ne sont pas les nôtres. Nous, Seigneur, par nature, nous sommes rancuniers, orgueilleux, pécheurs, faciles à suivre le mal, durs à la repentance. Et ta parole, c'est tout l'inverse. Cela nous prouve bien là encore que ta parole est divine, Seigneur. Aide-nous à la faire nôtre, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser du levain dans notre vie. Seigneur, si nous sommes des créatures nouvelles, une pâte nouvelle, qu'il n'y ait plus de levain en nous, Seigneur. Que tu gardes notre Église de tout péché, Seigneur, de tout problème. Garde ton Église, Seigneur, dans le monde entier de cela. Que le diable n'y entre pas, Seigneur. Elle est sous ta domination. Seigneur, tu en es le maître. Qu'aucun de tes enfants, Seigneur, n'ouvre la porte au diable pour qu'il y entre. Seigneur, nous t'en prions. Fais-le et nous prions aussi pour peut-être ceux parmi nous qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix. Tu es venu mourir pour nos péchés. C'est un don gratuit, mais c'est un don que nous devons recevoir aussi. Nous devons l'accepter et le faire nôtre. Seigneur, je prie pour ceux qui n'auraient pas encore fait ce pas ce matin, qui sont encore peut-être en train de pétrir la pâte avec le levain. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui voudrait demander au Seigneur de dire « Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne plus avoir de levain dans ma vie, à ne plus avoir de péché, je veux vivre pour toi, je connais mes luttes, Seigneur, je connais mes faiblesses, je connais mes combats et je sais que je ne peux pas résister, mais par ta grâce, aide-moi, Seigneur. » Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ ? Que c'est un combat, hein, parce que l'ennemi ne veut pas lâcher ses proies. Mais dites-le même dans votre cœur si vous le voulez, en tout cas, que le Seigneur fasse son œuvre et nous prions, Seigneur, pour que personne, Seigneur, ne rejette cet appel, le repousse peut-être un temps, mais le plus court possible alors. En tout cas, la parole que tu as semée dans nos cœurs ce matin, qu'elle produise de grands fruits pour le royaume, Seigneur. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais...